Voilà, celui qu'on entend là, c'est Daniel Cohen, c'est votre confrère économiste Daniel Cohen, qui est très connu, il intervient très très souvent comme expert, il est consultant d'une quantité impressionnante et prestigieuse, banque de pouvoirs divers et variés, et là il donne sa définition du projet ultralibéral.
Oui, et cette définition, elle vaut la peine d'être énoncée comme ça, parce que c'est bien ça qu'il y a derrière le projet néolibéral ou ultralibéral, qui est parti de très loin, hein. Vous l'avez peut-être rappelé à certaines occasions dans vos émissions, il est parti de très loin avec des gens comme Hayek et Friedman, qui se sont très tôt opposés au projet keynésien, ou social-démocrate, pour eux, c'était la voie vers le socialisme et la tyrannie. Et donc, ils ont véritablement repensé sur des bases philosophiques très profondes l'idée d'une société qui ne serait quasiment plus qu'un marché, et où chacun devrait poursuivre ses petits objectifs et ses petits intérêts privés, ne pas s'occuper de la chose publique n'étant pas autre chose que la coordination de ses égoïsmes par le marché. Et donc il décrit bien ce projet où il n'y aurait que les individus et le marché. Bon, en réalité, ça n'a pas été ça le néolibéralisme, parce que l'appareil d'État a été mis, c'est ce que montre bien Galbraith, James Kenneth Galbraith dans ses ouvrages, l'appareil d'État a été mis au service du projet des marchés. Il a déréglementé, il a subventionné les entreprises, il a baissé les impôts, il aura créé l'espace, il aura trouvé l'espace dans lequel se développaient ces projets. Oui. Donc ça n'a pas été un vide institutionnel, concrètement, mais l'idéologie, elle, faisait croire à cela.
Voilà, c'est ça, l'idéologie faisait croire que c'était trop d'État et qu'on allait réduire la place de l'État et l'influence de l'État. Oui, on l'a fait pour tout le secteur social, pour tout ce qui est de la main gauche de l'État. Effectivement, cette main gauche s'est rabougrie, mais l'État est venu au secours, comme il l'a fait bien souvent, du capitalisme. Le couple État-capitalisme a parfaitement fonctionné dans toute cette sphère-là.
Alors peut-être deux mots aussi, cette conception finalement qu'on qualifie ici de néolibéral et qui présente les choses en disant il n'y a rien entre l'individu et le marché. Mais ce n'est pas seulement finalement les néolibéraux qui développent cette idée-là. Quand on regarde l'enseignement de l'économie dans pratiquement tous les pays développés, dont la France, l'enseignement de l'économie, c'est quand même grosso modo cette image-là. Tous ceux qui ont fait des études d'économie sont structurés par cette pensée. Les agents économiques d'un côté, le consommateur, le producteur, qui se rencontrent ensuite sur un marché, la variation des prix ajuste les désirs des uns d'offrir et les désirs des autres de demander, et tout ceci se déploie dans un vide institutionnel et politique prodigieux.
Et syndical ?
On ne sait peut-être pas bien ce que sont des syndicats. La banque, on en voit un petit peu dans le cours de monnaie financement, mais après, on ne la voit jamais dans les grandes constructions et dans les grandes modélisations économiques. Ça a l'air d'être un truc à côté qui fait un métier un peu spécial, ce qui est vrai d'ailleurs, mais bon. L'intérieur de l'entreprise, on la voit moyennement, and so on. Donc voilà, c'est pas seulement les néolibéraux qui sont structurés comme ça, c'est l'ensemble des gens qui ont fait des études d'économie et qui après doivent ramer lorsque ils veulent comprendre un petit peu l'épaisseur de ce que c'est qu'une économie et une société.
On écoute l'extrait suivant où Eric Orsenna s'insurge contre les inégalités.
Aujourd'hui, c'est combien d'après vous ? Combien ? 300 fois.
Éric Orsenna.
C'est-à-dire en moyenne, les patrons des plus grandes entreprises gagnent 300 fois plus que l'employé le plus modeste. Alors comment voulez-vous qu'il y ait une harmonie à l'intérieur de cette entreprise ? Aucun souci de mesure. Ce qu'on voit maintenant, c'est une déconnexion entre les rémunérations et puis la véritable utilité sociale. Et quelqu'un qui, de près ou de loin, touche à la finance, celui-là ou cela vit ou vive dans une autre planète. Et c'est pas possible.
Alors, en tout cas, ce qu'on voit là en écoutant Éric Orsenna, Laurent Cordonnier, c'est que le rêve, l'utopie des années 80, à laquelle les pouvoirs socialistes adhéraient à l'époque, qui était de réconcilier les Français et l'argent. Vous vous souvenez de... Vous
étiez c'était le thème de Vive la crise.
Très jeune, oui, mais c'était pas seulement le thème de Vive la crise, c'était tout l'environnement. Il fallait se familiariser, se décomplexer vis-à-vis de notre goût naturel hein, pour l'argent et pour nos petits intérêts. Et là, on voit que non, c'est l'argent est redevenu, au moins dans l'esprit et dans les mots d'Éric Orsenna, diabolique. L'argent, diabolique. C'est le mal.